Bible dans le psaume 40 que je vais lire maintenant. C'est un psaume de David qui est adressé au chef de cœur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. En affermissant mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans de mensonges. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais le redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Mes fautes me poursuivent. Et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Qu'il te plaise de me délivrer, ô Éternel. Éternel, hâte-toi de me secourir, que tous ensemble ils aient honte et qu'ils rejouissent ceux qui en veulent ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et soient confus ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce psaume est là pour nous encourager, même au début de cette année scolaire qui s'ouvre demain pour les plus jeunes. Et on reconnaît que cette rentrée est là devant nous. Chaque année, cet événement nous donne un peu de stress, surtout les parents qui ont des petits-enfants, ou beaucoup de stress selon votre famille, votre situation. J'étais dans une grande surface hier soir. Je cherchais quelque chose et il y avait une foule immense de gens qui cherchaient avec le caddie tous les cahiers, petits carreaux, grands carreaux, tout ça. Les parents avec les petits, la rentrée scolaire, ça se prépare souvent en avance. Mais parfois il y a des oubliés de dernière minute et ceci n'est pas grave. Il y a des choses qu'on peut prévoir et d'autres qui sont... on s'adapte ou on s'improvise. Pour les enfants et les autres écoliers, il y a une autre stress qu'on peut décrire comme de l'appréhension, de l'inconnu. Et nous avons la responsabilité de prier pour les enfants qu'on connaît et de les accompagner pendant ces premières semaines de l'année scolaire. Pour les autres, sans enfants ou sans enfants à charge, c'est aussi un temps souvent de stress, car le rythme estival laisse la place à un autre rythme où il faut avancer plus vite, peut-être au travail, ou montrer notre efficacité dans un esprit de rentabilité. C'est le monde qui veut ça. Parfois, nous ressentons une certaine anxiété face à cette pression constante du travail ou de l'entreprise. Pour les autres, ce n'est pas ça du tout. Votre stress ou votre anxiété n'est pas lié à la rentrée. Et il est constant, sans relâche, sans répit. Où est la sortie? Où pouvons-nous trouver l'espoir? Comment la foi chrétienne peut-elle nous fortifier face aux épreuves? Donc ce soir, comme j'ai annoncé, comme nous avons lu le psaume 40, c'est un passage qui donne de la consolation et de l'espérance. D'un point de vue littéraire, excuse-moi la petite parenthèse, je trouvais une forme de... on peut le décrire comme... C'est, en anglais, c'est chiastique. C'est A, B, C, D, C, B, A. Ou on peut le faire comme... Non, ça, c'est éteint. Ça, c'est le D. Donc, c'est, on peut le voir un peu comme ça, comme une sorte de montée et une redescente. Donc, on va, vous pouvez trouver ça en regardant le A, c'est le verset 2. Le B, c'est le verset 3. Le C, c'est le verset 4. Ensuite, le sommet de la montagne, c'est les versets 5 à 11. Et tout à l'heure, Nicolas va partager un témoignage. C'est parce que ce sommet, c'est le témoignage. Et après, le psalmiste redescend avec les versets 12, 13, c'est le C. 14, 15, 16, c'est le B. Et on revient sur le A avec les derniers deux versets. Je vais faire quelques commentaires avant de laisser la place à Nicolas pour partager un témoignage. Donc on peut résumer ce psaume à la lumière du Nouveau Testament en disant face à la mort, face aux épreuves de la vie quotidienne, la raison de notre espérance est tout simplement en Dieu, trouver en Dieu le Père, Jésus-Christ et notre Sauveur ressuscité et en l'Esprit Saint qui nous transforme, nous sanctifie petit à petit. Donc ça c'est le résumé, le concentré de la prédication. Tout d'abord, espérance en Dieu. Dans ce psaume 40, nous découvrons le cœur de David qui espère en Dieu. En quelque sorte, nous avons ici le témoignage de David, comment il a rencontré Dieu et comment il vit par la foi. On sait que le fidèle, le chrétien vit par la foi. David expérimente le salut et la transformation de sa vie. David loue le Seigneur pour ses attributs et pour ses bienfaits. Enfin, sa foi et son espérance inébranlable lui donnent la persévérance et l'humilité de suivre son Dieu jusqu'au bout. Ça, c'est espérance en Dieu. Deuxième phase de son raisonnement, c'est délivrance de Dieu. Dieu intervient dans notre réalité comme il est intervenu dans la réalité de David, dans notre histoire personnelle, comme pour David. Le Dieu de la Bible ne reste pas distant, il ne reste pas inerte, il ne reste pas à l'écart, il ne reste pas silencieux. Non, notre Dieu est plein de miséricorde. Il entend nos cris, il vient là où nous sommes. Troisième phase, Dieu nous sauve. Donc, la délivrance se manifeste par le salut. Comme pour David, Dieu nous a sauvés de la fosse de destruction. Ça, c'est dit dans le verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Nous sommes tombés très bas à cause de nos fautes et notre éloignement, notre orgueil. Mais Dieu nous a relevés du fond de la boue. Jésus-Christ s'est fait homme pour entrer et comprendre notre quotidien. Jésus a vécu comme nous, avec des limites physiques. Il n'est pas né dans un palais somptueux. Au contraire, Jésus vivait dans la simplicité, même dans la pauvreté. Jésus a été tenté comme nous, mais il a résisté pour devenir triomphant. par sa mort et sa résurrection. David parlait de la fosse pleine de boue où il semblait tomber. Dieu lui a mis sur le roc où il a trouvé pied ferme. Je pense que ce mot roc nous fait référence à David, à Jésus. Jésus est le roc dont David a parlé. Jésus est le roc sur lequel Dieu nous met les pieds. Je ne sais pas si vous avez jamais perdu pied dans la mer, par exemple. Et donc, vous êtes en train de partir au large et d'un coup, vous trouvez un banc de sable ou une pierre ou quelque chose. Vous trouvez pied et c'est un salut. On peut ensuite retrouver la côte. La foi en Jésus-Christ est la fondation d'une relation pleine d'espérance en Dieu. La quatrième étape, Dieu transforme nos doutes en confiance. Si vous relisez ce psaume ce soir, vous allez voir que David, il avait certains doutes et Dieu les transforme peu à peu. Dieu peut même changer notre attitude, notre comportement, notre caractère et même nos émotions par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est une grande phrase. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec un ami sur Marseille qui m'a parlé d'une certaine attitude qu'il avait, irritation, et je dis, mais Dieu peut changer ton caractère, Serge, il peut changer ton caractère. Non, c'est impossible, c'est moi, c'est mon caractère, Dieu ne peut pas changer ça. Et je dis, oui, il peut même changer tes émotions, il peut toucher là où tu as besoin d'être touché, il peut te changer par l'esprit. On sait que David, il aimait chanter, il jouait la musique très, très jeune, et il a été choisi comme chanteur pour le roi Saül, quand il était malade, troublé dans son esprit. David connaissait certainement beaucoup de chants, il écrivait même des poèmes et la musique. Dans ce psaume 40, David nous annonce que Dieu a mis dans sa bouche un cantique nouveau, un chant de joie, peut-être au lieu de lamentation, un refrain joyeux au lieu des plaintes. David était prêt à recevoir de Dieu ce cantique nouveau et à le transmettre autour de lui. Il dit « Beaucoup le verront et ils auront de la crainte ». David, il fait un jeu de mots, parce que quand on entend aujourd'hui la crainte, on a plus, c'est la peur, non, c'est la crainte qui amène à la connaissance de Dieu. Et dans le Proverbe chapitre 1, il est marqué que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc, si David partage ses nouveaux chants, il partage sa foi, c'est pour que d'autres trouvent la sagesse. Et nous savons que Jésus-Christ est le sommet de la sagesse. Dieu peut aussi servir de nos témoignages. Comme David, il voulait partager par un chant nouveau, il peut servir de nos témoignages, de nos vies transformées pour attirer d'autres personnes à lui. Donc je vous encourage cette année scolaire de réfléchir sur ce thème. Quel est mon témoignage? Quel est ton témoignage? Et c'est pas forcément un témoignage pour toujours, mais le témoignage peut évoluer avec le temps. Bienvenue. Donc le témoignage chrétien, c'est pas simplement mon histoire à moi, mais c'est plutôt comment Dieu a touché ma vie pour que je suis maintenant chrétien et que j'indique mon Sauveur. Comme les premiers chrétiens, vous avez vu des images des premiers chrétiens, des disciples, souvent dans les très anciennes églises, sur les murs, sur les fresques, on voit un ou deux disciples, on voit Jésus sur un autre côté, et souvent les disciples ont un signe comme ça pour montrer c'est lui. C'est lui le Seigneur. Donc notre témoignage doit toujours pointer vers celui qui est notre Seigneur, pas sur nous et notre propre vie changée. Donc je laisse la place maintenant à Nicolas qui va partager quelques mots sur sa vie et sur ce passage. Voilà.
Merci, bonjour. Il y a 4 mois, je ne connaissais pas le Seigneur. Et grâce à des frères et sœurs, du coup, ils m'ont donné une Bible et j'ai pu lire sa parole, lire sa loi et la mettre à profit. Et quand Pierre m'a parlé du psaume 40, moi je l'ai lu de suite et je me suis dit, c'est ça en fait, c'est là où j'en suis, ça me parle vraiment, c'est ce que je fais en ce moment. Et moi j'approuve en tout cas ce psaume, hein. Je ne peux pas me comparer à David, mais je me suis plus le temps passe et plus je me détourne vraiment de ces gens arrogants et partisans du mensonge, comme il dit dans le psaume. Et plus le temps passe, plus je me rends compte aussi que même dans mes bêtises, le Seigneur me bénit et m'apporte beaucoup de bonnes choses. Alors qu'au moment même où je suis en train de pécher contre lui, sans forcément le savoir, le Seigneur me bénit malgré tout. Et c'est là que je reconnais vraiment que le Seigneur est bon. Et si je dois faire vraiment le point sur ces 4 mois de conversion, j'en tire vraiment que des bonnes choses, au final. Ça, c'est grâce à Dieu. Je me sens vraiment plus en paix et plus dans la joie. Cette joie, je l'aurais pas trouvée. Ça fait des années que je la cherchais. Ça faisait 25 ans que je la cherchais. Et depuis vraiment que j'ai rencontré le Seigneur, waouh, j'ai vraiment trouvé quelque chose de fort, vraiment. Et je me sens vraiment plus dans la joie. Donc, après, pour revenir sur le psaume en lui-même, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'on nous parle de la constance. Et je pense que c'est une bonne chose à rechercher aussi également. Ça permet de nous appuyer vraiment sur ce roc qu'est Jésus, vraiment pour ne pas glisser dans la tempête. Bon voilà, le psaume, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais si je devrais vraiment résumer, je pense que vraiment le Seigneur m'a beaucoup aidé, je pense qu'il m'aidera beaucoup. Je suis pas prêt d'arrêter les bêtises, je pense, et je m'inquiète quand même beaucoup pour l'avenir. Mais grâce à la parole notamment, et à ces événements, ces moments de partage, je me rends compte que il n'y a peut-être pas beaucoup d'inquiétudes à avoir. Mais bon, il faut quand même faire attention et ne pas chercher de faire au mieux. Merci.
Merci Nicolas.
Donc c'était en quelque sorte le point culminant de ce psaume, le fait que David, il parle de sa confiance en l'Éternel et il décide de, malgré les épreuves et les souffrances dans sa vie, de garder sa foi en Dieu. Et nous aussi, à la lumière du Nouveau Testament, notre foi reste ancrée en Jésus-Christ, qui ne nous refusera pas ses compassions et sa bienveillance, nous gardera toujours. Donc David, il était entouré des ennemis. David, il y avait des dangers de l'extérieur, il en parlait. Mais il y avait aussi des dangers de l'intérieur, il parlait de ses propres fautes, qui sont toujours avec moi, il dit. Il dit dans le verset 13, mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Donc il reconnaît ses fautes et il veut être délivré de ses fautes. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Donc il a la tentation de se décourager, soit à cause des forces extérieures à lui ou les forces intérieures à lui. Mais il retrouve sa confiance en Dieu, qui promet de le délivrer. Et donc il dit au verset 14 qu'il te plaise de me délivrer, ô Éternel. Éternel, hâte-toi de me secourir. Donc il est en train de redescendre la gamme, si je peux oser dire. Il commence avec confiance. La deuxième note, c'est cette cri Dieu sauve-moi, et maintenant il redescend en disant j'ai confiance vraiment en toi. Donc il redescend sur ça. Et donc nous avons plusieurs supports qui pourraient nous aider. Bien sûr, la Bible, c'est le plus important. On a des confessions de foi. Donc ça, c'est un petit livret qui s'appelle « Confession de Heidelberg ». Donc c'est une ville en Allemagne. Et la première question, souvent, nous le disons comme une confession de foi. Mais ça résume bien ce que nous sommes en train de discuter. Quelle est votre unique consolation, tant dans la vie que dans la mort? C'est que tant de corps que d'âme, soit dans la vie, soit dans la mort, j'appartiens non à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui a satisfait parfaitement pour tous mes péchés par son sang précieux, qui m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde tellement qu'il ne peut tomber seulement un cheveu de ma tête, sans la volonté de mon Père céleste, que même toutes choses doivent servir à mon salut. À cause de quoi aussi il m'assure la vie éternelle par son Saint-Esprit et me forme à vivre désormais à lui de cœur et d'affection. Donc ce question-réponse, catéchisme, nous rappelle que Jésus-Christ nous aime et il pourvoit à nos péchés, oui, mais aussi à notre vie quotidienne. La deuxième question est semblable et plus courte, la réponse. Combien de choses devez-vous savoir afin de vivre et mourir heureusement avec cette consolation? On a encore la vie, mais nous ne sommes pas en train de mourir, mais c'est le fait de vivre et même à la fin de notre vie. Comment pouvons-nous être sûrs de tout ça? Trois choses on doit savoir. Premièrement, combien sont grands mes péchés et ma misère? Seconde, par quels moyens je puis être délivré? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Donc ça résume bien, je pense, le psaume 40, qui est là pour nous consoler, nous donner un nouveau départ avec cette rentrée scolaire ou avec ce démarrage de nouvelle étape de nos vies. Que Dieu soit notre consolation, notre force et notre réconfort. Amen. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants que tu es souverain de toutes choses et rien ne peut toucher nos vies sans que tu sois au courant. Et nous croyons que tu es souverain et aussi bon. Seigneur, nous te faisons confiance pour cette année qui ouvre devant nous, cette année scolaire. Et nous prions, Seigneur, que tu gardes nos enfants qui partent à l'école demain, que tu nous gardes aussi dans chaque étape de nos vies, que nous gardons notre espérance en toi, notre vision sur toi, car tu es notre sauveur. Et nous prions, Seigneur, que ces paroles partagées soient, que les choses que nous avons lues, et que ça soit vraiment édifiant pour chacun, selon l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Amen. Amen. Je laisse la passe à Sylvère.